VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Nouakchott, 19h à N'Djamena. Dans 10 minutes, le magazine Sahel Plus. Bonsoir à tous, mais auparavant, voici notre journal d'information. Dans l'actualité africaine, la médiation algérienne au pourparlers de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays a remis aux deux parties un nouveau projet d'accord, selon le document consulté vendredi par l'AFP, un texte de 30 pages qui appelle à reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices, tout en respectant son intégrité territoriale et sa diversité ethnique et culturelle. En Mauritanie, le gouvernement a annoncé la création d'un organe indépendant pour prévenir la torture après de récentes accusations d'Amnesty International sur cette pratique dans le pays, rapporte vendredi l'agence mauritanienne d'information. La venue aujourd'hui à l'UNESCO à Paris de Paul Kagame a été marquée par deux manifestations distinctes aux abords du siège de l'organisation internationale, l'une d'opposants au président rwandais et l'autre de ses partisans. Une quarantaine d'opposants a notamment réclamé la démocratie et le respect des droits de l'homme au Rwanda, où le régime autoritaire ne laisse aucun espace de liberté à l'opposition. Au Congo, une quinzaine de partis de l'opposition appellent le président Denis Sassou Nguesso à engager sans délai un dialogue national à l'approche de la présidentielle prévue en 2016. D'après l'AFP, le collectif de l'opposition demande également l'élaboration d'un calendrier rigoureux des différentes opérations préélectorales et électorales. Enfin, dans l'est de la République démocratique du Congo, des déplacés ont commencé à rentrer à Mulenge après la fin de l'offensive de l'armée contre des rebelles hutus rwandais. Salwa Jaafari.
Les habitants de Mulenge, localité du sud de la province du Sud Kivu, de quelques 10 000 habitants qui étaient réfugiés à l'Emera et ses environs, à une trentaine de kilomètres de Mulenge, ont commencé à rentrer depuis jeudi soir, a précisé à l'AFP un habitant de l'Emera. On ignore combien de gens précisément étaient concernés, mais un responsable d'association a évoqué plusieurs centaines de personnes rentrant chez elles. Jeudi, un officier de l'armée sur le front avait dit que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient repris Mulenge et des villages environnants. Il a ajouté que l'armée poursuivait les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, dans les grandes forêts où ils se sont retranchés. Les troupes régulières ont déclenché mardi, sans l'appui des casques bleus, une offensive au sud Kivu contre les FDLR, dont les chefs sont accusés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, qui a fait quelques 800 000 morts selon l'ONU. Cette opération est la première signalée depuis que l'armée avait annoncé le 29 janvier le lancement d'une offensive contre le FDLR, auteur de graves exactions contre les civils congolais et qui se livre à de lucratifs trafics de bois et d'or. La mission de l'ONU, la MONUSCO, avait promis un soutien logistique, stratégique et opérationnel à l'offensive de l'armée, mais elle l'a retiré quand Kinshasa refusait de changer deux généraux, Bruno Mandevu et Sikabou Fall, chargés de piloter les attaques au nord Kivu. La MONUSCO soupçonne les deux généraux de graves violations des droits de l'homme.
En Zambie, l'ancien ministre des Mines, Maxwell Mwale, a été condamné vendredi à un an de prison pour corruption après avoir accordé irrégulièrement une licence d'exploitation à une compagnie chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir du Front patriotique de Michael Sata en 2011, plusieurs personnalités politiques zambiennes ont été inquiétées, dont l'ancien président Banda, des personnalités qui sont généralement accusées de corruption. En République centrafricaine, consultation entre la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, et les autorités de transition lors d'une visite de travail de 48 heures à Bangui. Le point sur son entretien avec la présidente Catherine Samba-Panza, avec Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine.
Comme vous le savez, la présidente de la transition a accepté, il y a un mois, le transfert de Dominique Ongwen de la LRA à la CPI. Donc, c'était un acte fort de collaboration claire et franche avec la Cour pénale internationale. Même si ce qui s'est passé ne concernait pas la République centrafricaine, c'était des infractions qu'on reprochait. à la LRA et à d'autres pays voisins. Mais le fait que ce personnage se trouvait sur le territoire centrafricain a justifié que la République centrafricaine et le chef de l'État de la transition a donné son accord pour une collaboration franche avec la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter contre les violations des droits humains. La procureure est venue ici pour remercier et encourager les autorités de la transition.
Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence centrafricaine, elle répondait aux questions de Félix Yepassi Zemrou. L'instance représentant l'islam auprès des autorités égyptiennes, le Dar al-Ifta, a estimé aujourd'hui vendredi que la destruction de trésors antiques en Irak par le groupe islamique révélait leur ignorance de l'islam, une religion qui, au contraire, encourage et ordonne la préservation du patrimoine. Pour les djihadistes, c'est le contraire. Les statues ou les tombes favorisent l'idolâtrie, un avis qui reste extrêmement marginal, même chez les religieux les plus traditionnels. L'épidémie Ebola n'est pas terminée au Libéria, même si le nombre d'infections s'est énormément réduit, a prévenu vendredi le secrétaire d'État américain John Kerry en recevant la présidente de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Ellen Johnson Sirleaf. Les États-Unis mettent fin à leur mission militaire au Libéria et Madame Sirleaf est venue à Washington remercier le gouvernement américain et le Congrès pour l'aide de 2,5 milliards de dollars et l'envoi de 2 800 militaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, les violences ont repris vendredi dans l'Est séparatiste pro-russe de l'Ukraine après une courte accalmie, au moment même où le Conseil de sécurité de l'ONU veut tenir une réunion d'urgence. L'armée ukrainienne a fait état vendredi de 3 soldats tués et 7 blessés en 24 heures. L'Ukraine, qui se dit prête à redéployer ses armes lourdes sur la ligne de front dans l'est du pays, les séparatistes soutenus par Moscou continuant de violer le cessez-le-feu. Le point avec Camille Grosdidier.
L'armée ukrainienne est prête à tout moment à résister à l'ennemi, a déclaré vendredi le président ukrainien Petro Poroshenko. Entre-temps, un porte-parole militaire ukrainien a déclaré que 3 soldats gouvernementaux ont été tués et 7 blessés au cours des dernières 24 heures. Cela faisait 2 jours consécutifs qu'on ne signalait pas de mort. Même si la trêve tient, a poursuivi M. Poroshenko, la mise en œuvre des accords de paix conclus à Minsk ne dissipera pas la menace militaire venue de l'Est. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lui évoqué des progrès dans le retrait des armes lourdes dans l'Est de l'Ukraine. Il a souligné l'importance de respecter les autres modalités de la trêve, y compris les questions humanitaires et la réforme constitutionnelle dans la région du Donbass.
En Syrie, au moins 18 personnes ont été tuées vendredi dans des raids aériens et un attentat à la voiture piégée dans 2 localités rebelles au nord-est de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et Syrie toujours, les principales formations de l'opposition syrienne de l'intérieur et en exil ont annoncé vendredi être parvenus pour la première fois à un accord sur l'ébauche d'une feuille de route pour mettre fin au conflit qui entrera le mois prochain dans sa 5e année. Comme tous les vendredis, dans le village palestinien de Bilin, des manifestants ont tenté ce vendredi d'atteindre le mur de séparation érigé par Israël, le long de la frontière de la Cisjordanie. Une manifestation réprimée comme chaque année par les soldats palestiniens, mais qui a fêté son 10e anniversaire aujourd'hui. Et une bonne nouvelle pour terminer ce journal, le film Tombouctou, chronique de la vie au Mali sur la coupe des djihadistes, sera bien diffusé au FESPACO, l'un des principaux festivals de cinéma africain qui s'ouvre demain à Ouagadougou. C'est l'annonce faite ce vendredi par le ministère de la Culture burkinabé. Des rumeurs faisaient état ces derniers jours de sa déprogrammation pour des raisons de sécurité. Tombouctou a remporté 7 prix lors de la dernière cérémonie des Césars en France, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Abderrahmane Sissako. Même si ici, aux États-Unis, ce film n'a malheureusement pas remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Tout de suite, Sahel Plus. Rendez-vous à 16h, heure de Washington, pour notre prochain bulletin d'information.